Une conférence organisée par les veilleurs de Bigorre sera donnée ce soir à Lourdes sur le bienheureux Charles d'Autriche. Pour rappel, il est monté sur le trône impérial d'Autriche en 1916 et malheureusement, il a été chassé 2 ans plus tard, à la fin de la guerre, par les bolcheviks. À l'heure où la guerre sévit à nouveau en Europe, il est bon de découvrir cette belle figure d'artisan de paix. Elisabeth Montfort, auteure de Charles et Zita, itinéraire d'un couple aux éditions Arthage, donnera cette conférence à Lourdes. Elle est notre invitée ce matin. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes Elisabeth Montfort, déléguée de la Ligue de prière pour la canonisation de Charles d'Autriche. Le dernier empereur d'Autriche, dernier roi de Hongrie et dernier roi de Bohême a en effet été béatifié par Saint Jean-Paul II en 2004. Précisons que Charles d'Autriche est mort en 1922, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, 1er avril.
1er avril, voilà, c'est ça. En quoi le combat de Charles d'Autriche pour la paix, son combat, a fait de cet empereur un bienheureux?
Alors, dès qu'il est monté sur le trône pour remplacer son grand-oncle, l'empereur François-Joseph, en novembre 1916, il n'a eu de cesse d'entamer des pourparlers pour chercher la paix. Chercher la paix par le dialogue, alors que ses alliés, les Allemands, voulaient gagner la guerre par les armes. C'était toute la différence entre les deux. Et il a conduit une dizaine de tentatives de paix, c'est-à-dire que dès qu'une voie s'avérait ne pas aboutir, il commençait une autre voie. Jamais il ne s'est lassé, jamais il ne s'est découragé. Et la plus grande action qu'il ait pu faire, c'est quand le pape Benoît XV, en juillet 1917, a proposé à tous les belligérants une paix. Il est le seul à avoir répondu, le seul à avoir répondu positivement.
Le seul.
Donc ouais. C'est vraiment, ça a été son presque une obsession, l'obsession de sa vie d'empereur et de roi, de chercher la paix. Parce qu'il voyait que ses peuples et même ses ennemis, ses adversaires dans la guerre, perdaient beaucoup. Et surtout, il avait compris que l'Europe était en train de se suicider parce que c'était une guerre fratricide. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Oui. Donc, ça a été son engagement de toute sa vie de chercher la paix. Mais s'il a pu être cet empereur de la paix, c'est aussi parce que en lui-même d'abord, c'est un homme de paix, avec lui-même, avec son entourage, avec son épouse.
Oui, ça ne s'invente pas, effectivement, c'est une prolongation de lui-même. La guerre lui apparaissait comme une chose horrible. Il était lui-même militaire, donc il savait aussi de quoi il parlait.
Voilà, exactement. C'est d'ailleurs le seul chef d'État qui soit allé si souvent sur le front. Donc il a vu la guerre de ses propres yeux. Il a vu toutes ces horreurs, tous ces blessés, ces morts, parce qu'il allait au front, il allait encourager ses soldats. Donc c'était pas un empereur ou un roi de salon, c'était un empereur qui était présent partout, et c'était une guerre qui avait commencé 2 ans avant.
Un travail pour la paix qu'il est bon de se rappeler à l'heure où le conflit s'éternise en Ukraine.
Alors c'est tout à fait incroyable, mais justement la partie occidentale de l'Ukraine et la partie aussi le sud de la Pologne étaient rattachées à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc la région de Kiev était rattaché à l'Empire et l'empereur Charles, avant qu'il ne soit empereur, a été en garnison dans cette région-là. Donc il connaît. Alors, quand on pense à cette Première Guerre mondiale et la guerre qui se déroule sous nos yeux en Ukraine, on ne peut pas ne pas faire un lien.
Eh ben oui.
Donc vraiment, l'empereur Charles a été empereur de la paix, mais il a été d'ailleurs béatifié par Jean-Paul II comme empereur de la paix, ami de la paix. Vraiment, on peut le prier. Il peut être un intercesseur pour nous, pour retrouver cette paix en Europe.
Vous évoquez justement Saint Jean-Paul II qui a donc béatifié Charles d'Autriche. Je reprends les mots du Saint-Père. Le devoir décisif du chrétien consiste à chercher en toute chose la volonté de Dieu, à la reconnaître et à la suivre. L'homme d'État et le chrétien Charles d'Autriche se fixa quotidiennement ce défi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette imbrication, outre ce dont vous nous avez parlé à l'instant sur la foi, mais imbrication de la foi de Charles d'Autriche avec sa charge d'empereur?
Alors déjà avec son épouse, tous les jours, tous les matins, ils priaient ensemble, ils allaient à la messe ensemble et ils commençaient leur journée par la prière et la messe. Donc déjà leur journée était complètement remise entre les mains de Dieu. Et ensuite, les journées de l'empereur étaient très chargées entre les visites de ses ministres, les actions qu'il voulait conduire, les visites au front. Donc il terminait ses journées à minuit. Donc il travaillait 15 heures par jour au point d'ailleurs de fatiguer et d'épuiser ses assistants.
Ah oui.
Donc oui, et on ne peut pas. Il avait reçu d'ailleurs de sa propre famille, et Zita aussi d'ailleurs. Ils avaient reçu tous les deux de leur propre famille, de leurs parents, de leurs tantes, de leur grand-mère, bon, surtout des femmes d'ailleurs. La foi qu'ils ont ensuite transmis à leurs enfants, mais surtout ce lien constant entre la foi et les actes de charité. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence dans la vie de Charles et de Zita. Donc Charles, qui était empereur, lui, a essayé d'adoucir ou en tout cas de supprimer le plus possible les horreurs de la guerre.
Vous auriez un ou deux exemples dans cette quête de justice ?
Oui, par exemple, il a interdit l'utilisation du gaz moutarde, il a interdit le duel, il a interdit de bombarder ses troupes, de bombarder les villes et de bombarder les civils. Mais aussi, il interdisait à des soldats d'aller au front s'ils avaient plus de 6 enfants ou si dans la famille il y avait déjà eu 2 morts, 2 tués à la guerre. Mmh. Donc c'est tous ces petits exemples qui ont fait, et d'ailleurs quand Charles est monté sur le trône, il y a eu beaucoup moins de morts sur le front qu'avant qu'il monte sur le trône, parce qu'il n'envoyait au front que si c'était vraiment nécessaire. Et puis il y a un deuxième domaine aussi où Charles a été extrêmement présent, et avec Zita. D'ailleurs Zita l'accompagnait de temps en temps au front.
Oui, nous parlerons de son épouse.
Oui. Donc c'est un deuxième domaine où Charles a été aussi très très actif, c'est tout le domaine de la justice, des affaires sociales. Il a par exemple gracié des soldats, en particulier tchèques, qui avaient été injustement condamnés, et bien sûr son entourage n'a pas compris, mais lui ne pouvait pas supporter qu'un procès soit injuste et que des condamnés soient injustement condamnés et aient reçu une sentence aussi grave que la condamnation à mort. Mmh. Donc il les a graciés. Parce que lui aussi, il était complètement habité par cette béatitude, heureux ceux qui ont soif de la justice. Mmh. Et donc ça, et puis aussi un autre domaine, Charles a été le premier chef d'État à créer un ministère des Affaires sociales et de la Santé. Parce que il fallait vraiment traiter les conséquences de la guerre, donc les questions de la famine, les questions de la santé, les blessés, les veuves, les orphelins. Donc il a créé des petites unités, l'œuvre de l'enfance, le foyer du soldat où le soldat venait se reposer, et ce ministère des Affaires sociales. Donc il était en quelque sorte très visionnaire, parce que il voyait bien que il fallait aller vers le plus fragile, vers celui qui souffrait le plus, vers celui qui ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Et ça a été sa préoccupation quotidienne. Et c'était, s'il a pu tenir, c'est parce qu'il avait la foi.
Oui, vous le disiez, la Dieu premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Alors, il y a eu 2 miracles qui ont été reconnus lors de la béatification de Charles d'Autriche. Finalement, qu'est-ce qui manque pour sa canonisation ?
Il manque un miracle.
Il manque un miracle.
Il y a un miracle qui est en cours d'examen. Ça prend du temps. Voilà.
Ça prend du temps. Alors, oui. depuis 2009, vous êtes aussi Elisabeth Montfort, secrétaire générale de l'Association pour la béatification de l'impératrice Zita, donc l'épouse de l'empereur Charles. Cette dernière est restée veuve 67 ans après la mort de son époux. Ils ont eu 8 enfants. Quelle femme était-elle ?
Alors c'est très beau de voir la figure de l'impératrice, parce que pour moi elle incarne complètement la vocation de la femme, au sens où elle est femme, épouse et mère. Elle est femme, elle est impératrice, épouse de l'empereur, et lors du couronnement à Budapest, elle a reçu la couronne sur l'épaule droite la couronne de Saint-Étienne, donc la couronne que son mari a reçue sur la tête, elle l'a reçue sur l'épaule droite pour signifier qu'elle est l'épouse du roi et qu'elle doit aider le roi en toutes circonstances à porter la lourde charge. Et donc elle est femme, elle s'est engagée dans le domaine politique au sens noble du terme, aussi bien dans l'Empire que dans la monarchie, enfin tous les pays du Danube. Elle a été complètement femme, engagée auprès de son mari, toujours auprès de son mari, et elle disait « je suis sa compagne de route ». Et puis elle est complètement épouse. Enfin, le matin de leur mariage, Charles lui a dit « nous allons nous aider mutuellement à aller au ciel ». Et donc c'était le oui du sacrement de mariage, en fait, a été le oui à cette parole, cette proposition de Charles. Donc ils ont fait de ce chemin de sainteté le quotidien de leur vie, de leur courte vie conjugale terrestre d'ailleurs. Ils ne sont restés que 10 ans ensemble. Et donc elle est complètement épouse, et quand elle accompagnait l'empereur sur les au front ou dans les hôpitaux, elle était vraiment l'épouse de l'empereur, l'épouse du roi, la compagne de route de l'empereur, de Charles.
Elle était surnommée l'ange gardien de ceux qui souffrent.
Voilà, et elle était aussi mère. Alors ange gardien de ceux qui souffrent, parce qu'elle allait voir les œuvres de l'enfance, elle essayait de trouver le maximum de femmes pour aider des veuves. Donc elle a lancé elle favorisait des camps de vacances des enfants en Hongrie, parce que l'Hongrie était moins touchée par la famine. Et tout ça, elle le faisait en tant que femme, épouse et mère. Et puis elle est mère, alors c'est très étonnant, parce que aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu curieux que le roi ou la reine ou l'empereur soit considéré comme le père des peuples, la mère des peuples. Et pourtant, on trouve des écrits où Vita est considérée comme la mère des Autrichiens, la mère des Hongrois. Et elle est avant tout mère, parce qu'elle a 8 enfants.
Voilà, et dont vous
nous voyez l'unité, oui.
En préparant cet entretien, dont elle s'est particulièrement occupée de l'éducation. Il va falloir nous quitter, Elisabeth Monfort.
Oui.
Je voulais juste préciser qu'évidemment, leur vie n'a pas été facile, puisque ce couple a été exilé en Suisse.
Oui.
Et puis après,
oui.
Zita seule, Madère, le Pays Basque espagnol, la Belgique, la France, etc. Je passe, mais je voudrais juste rappeler donc cette conférence que vous donnez ce soir à 20h30. C'est Salle Saint-Pierre, 16 rue Barthérès à Lourdes, en présence de son Altesse impériale et royale Karl-Philippe d'Autriche, qui n'est rien que le petit-fils,
oui,
du bienheureux Charles d'Autriche et de l'impératrice Zita de Habsbourg. Voilà, merci beaucoup Elisabeth Monfort.
Merci à vous, merci, bonne journée.